Moi, c'est André de Mboujimaï au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui
est. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre ce nouveau numéro des Paroles aux Auditeurs. Les infirmiers et le personnel administratif des hôpitaux publics sont en grève depuis le 8 juin dernier dans plusieurs provinces de la RDC. À Kinshasa, les syndicats de ces agents disent compter sur le gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions sociales et de leurs primes de risque. La mécanisation des nouvelles unités figure aussi parmi les revendications de ces prestataires de santé. Dans les hôpitaux publics, tous les services tournent au ralenti depuis le déclenchement de cette grève. Notons que ces mouvements de grève interviennent alors que le pays fait face à la troisième vague de coronavirus. Selon vous, que faut-il pour améliorer les conditions de travail des infirmiers et personnels administratif en RDC? 081 890 4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Ce magazine est mis en nom de par Hippolyte Kapanga. Il est plutôt réalisé par Jocelyne Mukendi. Quant à moi, Pierrot et la Meji, c'est un réel plaisir d'être avec vous, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
Les infirmiers et personnels administratifs revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail. Un mouvement de grève a été déclenché. Nous en parlons avec vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les conditions de travail des infirmiers à travers le pays? Et nous avons associé à cet échange Monsieur Joseph Kibangula. Bonjour.
Bonjour Monsieur le journaliste et bonjour à toute votre équipe technique.
Vous êtes syndicaliste, hein? Voilà, et nous parlons de ce mouvement de grève. Est-ce qu'on peut dire que le déclenchement du mouvement de grève fait suite au refus ou bien à la lenteur du gouvernement de répondre à vos revendications?
Absolument oui. Vous savez que ces revendications ne datent pas d'aujourd'hui. Si je peux vous dire la genèse, je vais prendre assez de temps, mais il faut retenir une chose, que c'est depuis 2012 que nous avons déjà commencé les négociations avec les gouvernements qui se succédaient. Et ici, je fais allusion d'abord au gouvernement Matata, jusqu'au moment où nous sommes aujourd'hui. Et durant tout ce temps, les corporations infirmières, si vous voulez, les syndicats des infirmiers et des autres professionnels de santé, ainsi que celui des administratifs, avaient déjà signé 7 protocoles d'accord avec le gouvernement, mais aucun de ces protocoles n'a jamais été appliqué de bonne foi, malgré la bonne foi du banc syndical. Et nous avons senti, nous avons trouvé qu'il y a ras-le-bol. Nous avons posé les problèmes en réactualisant les différents protocoles d'accord et nous avons tout simplement retenu 4 éléments clés de tous ces protocoles d'accord-là parce que, rappelez-vous, parce que vous nous accompagnez de temps à autre, rappelez-vous qu'il y a une clause que nous avons trouvée avec les gouvernements des pouvoirs ou des devoirs alignés, les professionnels de santé, les administratifs n'ont jusque-là payé de leurs primes de risque. Et ça fait plus de 10 ans, les uns, 15 ans même, aucun de ces infirmiers, aucun de ces professionnels de santé, aucun de ces administratifs ne touche cette prime de risque professionnelle. Mmh. Alors, nous avons demandé au gouvernement de ne fût-ce que commencer à débloquer cette situation. Et dans cette situation, je dois vous souligner encore, monsieur le journaliste, qu'il y a des gens qui ont été bloqués consciemment par le contrôle effectué par le pouvoir public. Alors, tout cela, ça nous a mis mal à l'aise. Avec les gouvernements actuels, nous avons repris ces revendications. Mm-hmm. Malheureusement, le gouvernement a gardé le sourd oreille jusqu'au déclenchement du mouvement de grève que nous sommes en train d'observer depuis le 9 juin de ce mois. Mm-hmm. Enfin, le 9 de ce mois.
Ok. Alors,
voilà
si nous...
un peu le la résumé de la voilà. situation.
Ok. Alors, si nous pouvons synthétiser leurs revendications, vous avez parlé, il y a d'abord la question des personnes qui sont non payées, non mécanisées. Il y a la question de la prime des risques, mais le salaire lui-même représente quoi aujourd'hui pour un infirmier ou personnel administratif?
Mais c'est une honte, monsieur le journaliste. C'est une honte. Lorsque moi je vous parle avec le niveau de formation que j'ai, si je vous dis que je touche 100 000 francs congolais, vous n'allez pas accepter. Ou les Congolais, les commun des mortels n'acceptera jamais. Le salaire, c'est encore très bas. Il y a les salaires de 50 000 francs, il y a les salaires de 80 000 francs, il y a les salaires de 120 000 francs, il y a les salaires de 150 000 francs. Imaginez-vous. Alors que dans le même secteur, avec une autre catégorie, ce n'est pas ce que nous vivons. Surtout, cette discrimination, c'est au niveau des primes des risques. Mmh. Là où nous sentons que vraiment il y a une discrimination et que nous sommes de dénoncer, malheureusement, le gouvernement n'entend pas de son oreille pour résoudre la question.
Hmm. Est-ce que, M. Joseph Kibangula, est-ce que l'important, ce n'est pas de se battre pour que les salaires soient augmentés plutôt que la prime des risques, parce qu'une prime reste quelque chose qui peut peut-être être donné aujourd'hui ou demain. Pourquoi ne pas se battre pour que l'enveloppe salariale soit plus consistante que la prime des risques? Parce que beaucoup de gens se battent pour la prime en estimant qu'elle est plus consistante plutôt que le salaire lui-même.
Oui, M. Perrault, c'est ça notre combat. C'est ça notre lutte syndicale. Nous ne sommes pas pour la prime, bien qu'elle est réglementée, n'est-ce pas? Le problème pour nous, c'est les salaires, mais la mauvaise politique du gouvernement fait que il nous distrait dans la prime des risques, tout simplement. Nous ne voulons pas que ça soit la prime des risques qui est toujours l'objet des discussions avec le gouvernement. Mm-hmm. Retenez qu'il n'y a pas une bonne politique salariale dans ce pays. Parce que quand je vous dis que dans les 7 protocoles d'accord, vous allez trouver des clauses où nous demandons à ce que le gouvernement puisse mettre l'accent sur la politique salariale. Mmh. Et la politique salariale doit commencer par une bonne rémunération selon les lois, parce que tout cela est inscrit dans la loi. Mais malheureusement, on est en train de nous distraire dans cette prime de risque qui est encore discriminatoire. C'est une façon de dire que leur gestion n'est pas une gestion orthodoxe, ce n'est pas une gestion opaque. Et c'est encore une façon de refuser de mettre les employés à la retraite, parce que, imaginez-vous, depuis la période du gouvernement Matata, il y a un nombre important des agents de l'État, des fonctionnaires en général, et dans le secteur de la santé en particulier, qui sont déjà éligibles à la retraite, mais ils vont aller à la retraite avec quel traitement de base? C'est ça la question. Alors, tout ça, le gouvernement est en train de se cacher derrière la prime des risques professionnels, je parle précisément du secteur de la santé, pour flouer les travailleurs que nous sommes. Mais notre créneau, notre revendication importante, c'est les salaires. Mmh. Le salaire, s'il est amélioré, même si demain ou après-demain, quelqu'un va aller à la retraite, mais il a quand même des assurances, il a des garanties. La prime, c'est la prime de ceux qui prestent. C'est ça la prime des risques professionnels. C'est pour les prestataires. Mais lorsque vous allez à la retraite, bien sûr, vous n'aurez plus cette prime-là. Mais ici, c'est la mauvaise politique que nous sommes toujours en train de dénoncer, au gouvernement, qui ne tient pas compte de mettre en place une bonne politique salariale.
Mmh. Alors, on va revenir à vous, le temps d'écouter les auditeurs de Radio Capi, qui voudraient aussi intervenir dans ces plaidoyers. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les conditions des travail des infirmiers, du personnel administratif? Vous êtes nombreux à vouloir commenter ces sujets, comme vous, Maître Alidor. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour M. Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de l'émission Parole aux auditeurs de la radio Capri.
On vous écoute, Alidor.
Oui M. Pierrot, votre sujet a retenu notre attention dans la mesure où les conditions socio-professionnelles des infirmiers, comme ceux des autres agents de l'État congolais en RDC, sont déplorables, quand même celles-ci abattent un travail très difficile. Les infirmiers sont clochardisés dans la mesure où ce qu'ils touchent comme salaire de la part de l'État est tellement dérisoire. Et en plus, ce salaire n'est pas accompagné d'une prime de risque. C'est comme ça que nous avons envisagé pour éviter les mouvements de grève intempestifs à tout moment, non seulement dans le secteur de la santé, mais aussi dans d'autres secteurs. L'État congolais doit premièrement chercher à améliorer les conditions socio-professionnelles des infirmiers. On doit leur payer un travail décent. Ces hommes de l'art exercent un travail très, très, très important dans la vie d'un homme, au point qu'on ne peut pas banaliser le travail des infirmiers. Vous avez compris comment les médecins sont en train de regretter la perte des infirmiers. Parce que ce n'est pas aux médecins d'administrer le soin aux patients. Et c'est cette grève des infirmiers a causé des dégâts très importants, des dégâts humains sur toute l'étendue du territoire national. Alors, au-delà du salaire décent, l'État congolais doit aussi chercher premièrement à pouvoir organiser un audit. Aujourd'hui, beaucoup d'infirmiers sont en train de travailler. Depuis beaucoup d'années, ils prennent sans salaire ni prime de risque. Alors que leurs salaires sont déjà là, mais certaines autorités sont en train de détourner ces salaires-là. Parce que le détournement des biens publics étant devenu un mode de vie, un mode de gestion au Congo, le secteur de la santé n'est pas en reste. Il faut aussi que d'abord au niveau de la santé, au niveau du ministre et de tous les secteurs techniques de la santé, qu'on puisse recenser les infirmiers. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui qui est infirmier de l'État, qui ne l'est pas, qui mérite d'être payé et qui ne l'est pas. Alors le fichier des infirmiers...
Et merci beaucoup, Alidor. Vous avez ajouté un élément important. Vous avez insisté sur le fichier, connaître qui est exactement infirmier, qui doit être payé par l'État, qui ne peut pas être payé. Ça, c'est très important. Mais rappelons quand même qu'il y a presque chaque gouvernement initie les contrôles physiques pour se rendre compte qu'est-ce qui se passe dans les secteurs de la santé. Au-delà de tout, vous souhaitez aussi un audit pour savoir est-ce qu'il n'y a pas de détournement des salaires de ceux qui doivent en principe le percevoir. Merci beaucoup, Alidor. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani. Bonjour. Bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à votre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute, Marie-Paul.
Oui, monsieur le journaliste, la grève est décrétée depuis le 8 juin par les infirmières personnelles administratifs des hôpitaux publics de la RDC, inconforme à l'esprit et à la lettre de certaines dispositions constitutionnelles. À l'occurrence, il y a l'article 39, alinéa 1, qui dispose que les droits de la grève sont reconnus et garantis. Mmh. Il y a aussi, lorsque vous allez à l'article 36, vous allez vous rendre compte dans l'alinéa 2 qu'il est dit que l'État garantit les droits du travail et la protection contre le chômage et une rémunération équitable, satisfaisante, afin d'assurer aux travailleurs ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine complétée par tous les moyens de protection sociale. Vous voyez, toutes ces dispositions ici donnent justement droit à ces infirmiers de revendiquer leur cas. Voilà pourquoi je dis que les revendications qui sont faites par les infirmiers et les personnels administratifs sont fondés et légaux. Et c'est depuis très longtemps, c'est depuis belle irette que ces problèmes ont été toujours fait l'objet de grèves, de revendications de la part de ceux-là, de cette catégorie de personnes qui sont vraiment marginalisées, pourquoi pas aussi, qui sont traitées de manière inhumaine. Parce que nous le savons que la santé, dans un état, c'est parmi des éléments clés, c'est parmi des fondamentaux qui font à ce que les pays la développent. Mais dans notre pays, le secteur de la santé est vraiment abandonné. Si nous voyons, c'est partout. Si nous voyons dans les listings ce que les personnels de santé touchent, ça laisse à désirer. Alors que ça ne devrait pas être comme ça, parce que ce sont ceux-là qui sont en train de se militer pour que les uns, les autres, tout le monde soit quand même dans la bonne santé, afin que les pays profitent de tous les travaux que les gens en bonne santé sont en train de faire. Alors, à mon sens, moi je trouve que les gouvernants de la RDC doivent mettre en place une politique publique et une politique publique salariale. On doit tenir compte de mettre ça. Il faut qu'il y ait vraiment des bonnes planifications, de mettre cette politique-là publique salariale. Et on doit appliquer les SMIG. Nous avons parlé des SMIG. On a voté les SMIG. On doit tenir compte des SMIG pour que les gens soient payés de manière un peu décente et de manière honorable. On ne peut pas continuer. Il n'y a pas seulement, bon, peut-être que la chose est un peu trop décriante à ce secteur-là. Il y a aussi le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Il y a le secteur il y a d'autres secteurs qui sont marginalisés. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours cette discrimination salariale. Dans tous les sujets, dans tous les pays, il y a toujours une politique salariale. Il n'y a pas des écarts criants comme nous constatons ici. Vous imaginez, quelqu'un parce qu'il est politique, lui touche 30 000 $ et l'autre parce qu'il est infirmier, il est enseignant à l'école primaire, il est assistant à l'université et il doit continuer à toucher 100 $ ou les autres moins de 100 $. Est-ce que nous sommes pas entrés là, le gouvernement n'est pas en train d'entretenir les fraudes, les détournements que nous connaissons. C'est parmi des choses qui font que les gens détournent, parce que s'il n'y a pas et un salaire décent, et que les gens sont dans cette misérabilité comme nous les constatons. Je pense que nous très souvent, lorsque ces débats-là vous organisez, les politiques font sourd oreille. Ça ne devrait être comme ça. Nous les disons parce que ça doit interpeller les politiques. Nous avons maintenant des pandémies. Il n'y a pas seulement la COVID. Il y a des problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes de santé dans notre pays parce que si vous analysez les publications et que les professionnels les santé sont en train de faire. Nous sommes en plein situation de maladie. Mais si ce personnel-là et que d'autres couches sont minimisées comme ça, et qu'on ne privilège que la couche.
Alors, mais parce que vous avez évoqué, merci beaucoup, Marie-Paul. Rappelons, parce que vous avez parlé des SMIG, rappelons quand même que pour les salaires minimum interprofessionnels garantis, qui était prévu par le gouvernement congolais, ça devait entrer en vigueur en 2018, je me rappelle bien. Il y a eu un décret signé par le premier ministre Bruno Tshibala. Alors, ces SMIG étaient en train même de fixer déjà les salaires, comme vous avez dit, les SMIG étaient fixés, par exemple, pour les travailleurs semi-qualifiés. Ils devaient toucher 10 895,5 francs congolais par jour de travail. Pour la catégorie, catégorie 3, 1, 2, 3, on devait aller jusqu'à 12 000 pour certains. Pour les travailleurs qualifiés, c'était jusqu'à 22 000, 25 000, jusqu'à 34 000 francs congolais par jour. Mais est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui? Vous estimez que ce n'est pas ça? Alors, il faut qu'on arrive quand même à avoir cette conscience du gouvernement pour payer comme il faut les fonctionnaires ainsi que les infirmiers. Merci beaucoup, Marie-Paul. Kalo Kalonji, vous êtes en Boujimaï. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour.
Oui, bonjour Radio, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, Kalo.
Oui, moi je trouve que la solution à cette situation des infirmiers et personnels de la santé est loin d'être trouvée en RDC. Nous étions enfants, aujourd'hui nous sommes des responsables. Chaque année que nous assistons à une ou deux grèves, et pendant cette période, il y a toujours des morts causées par cette manière d'agir des infirmiers, qui n'est pas à leur serment, bien que leurs revendications soient légitimes. Pour mettre fin à cette situation, plusieurs choses sont à envisager. Parce que moi, je suis en Boujimaï, je connais ce qui se passe encore. Il faut identifier d'abord les véritables infirmiers, tout en élargissant les effectifs et les non-infirmiers. Comment voulez-vous, comme ici, à Ougassaï, au Rizal, moi, je connais des gens qui touchent l'argent, mais qui ne sont même pas du secteur de la santé. Et il faut aussi dépolitiser plutôt les secteurs. Parce qu'ici, au Congo, tous les secteurs sont toujours politisés. Et il faut aussi recenser les hôpitaux publics. Parce que moi, je vois trop de maquis comme dans les secteurs aussi d'enseignement. Ce qui se passe dans les secteurs de la santé aujourd'hui, c'est ce qui se passe aussi dans l'enseignement. On ne peut pas mettre les mécanismes pour recenser d'abord, connaître qui sont infirmiers d'abord. Parce qu'on donne l'argent à ceux-là qui ne sont même pas infirmiers. Et pour terminer, je préfère que L'État aussi puisse allouer aussi un budget consistant à ce secteur pour payer les agents selon les conventions. Parce que chez nous, il y a toujours des conventions et conventions, mais on n'arrive pas à payer les gens là. Notez bien, je peux dire seulement que la vie humaine est sacrée. Je demande à nos infirmiers de revenir quand même à la raison. Les Congolais meurent de faim, meurent de cœur, mais ajouter encore vraiment les choses de soins médicaux, moi je trouve que c'est trop vraiment que les gouvernants et les infirmiers puissent revenir à la raison. Vraiment, nous sommes vraiment au bout des choses, vraiment.
Merci beaucoup, Kalo Kalonji. Vous estimez d'abord, au-delà de l'appel que vous lancez aux infirmiers pour reprendre les services, mais vous estimez quand même qu'il faut un contrôle sérieux, parce qu'il y a aussi des gens qui ont des numéros matricules, qui sont payés comme agents du secteur de la santé, alors qu'ils ne sont pas du secteur de la santé. Vous avez évoqué l'effectif. Il y a aussi peut-être des infirmiers qui évoluent, qui travaillent dans le secteur privé, mais qui sont payés par les trésors publics. Il a juste son numéro matricule, il est inscrit, il est payé, alors qu'il travaille dans les privés. À la fin du mois, il va prendre les salaires. Vous estimez qu'il faut mettre de l'ordre dans le secteur. On va écouter Benjamin qui est à Kananga et revenir ici à Kinshasa pour que notre invité puisse réagir. Benjamin, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot et la Meiji, bonjour à l'invité, bonjour à tous les nombreux auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute, Benjamin.
Merci beaucoup, cher Pierrot, de m'avoir associé à ce débat. Je commence par un dicton qui dit « La santé n'a pas de prix ». Si aujourd'hui, quand même, nous sommes en bonne santé, c'est parce que nos infirmiers, aussi nos médecins, jouent un rôle très capital hein, dans la société congolaise. Mais sinon, Monsieur Pierrot, en rapport avec ce qui passe aujourd'hui sur toute l'étendue du pays, moi, je suis en train de me demander, est-ce que l'État congolais à la situation réelle. Est-ce que le gouvernement congolais est suffisamment informé de ce qui se passe aujourd'hui sur l'étendue de la RDC? Et j'ai cette inquiétude, M. Pierrot. Aujourd'hui, les autorités de la RDC nous ont habitués à un système tel que, pour être remis dans ses droits, il faut marcher, il faut faire des grèves. C'est quand même grave, je dirais très grave pour un pays comme la République démocratique du Congo. Et là, ça donne l'impression comme si l'État n'a pas la maîtrise de ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, le secteur de la santé est gangréné par beaucoup d'antivaleurs. Et le mardi passé, si j'ai une bonne mémoire, j'ai suivi le ministre de la Santé entrant sur vos antennes. Il a dit il y a déjà des dispositions qui sont prises avec des syndicats pour qu'on puisse régler la situation des personnels médicaux. Mais moi, je peux dire que si le ministre de la Santé est revenu à cette raison, c'est parce que il a compris que maintenant ça ne va pas, il y a des grèves en répétition. Mais c'est quand même grave. C'est très grave, M. Pierrot. Si je vous dis aujourd'hui, si beaucoup d'infirmiers, beaucoup de médecins aujourd'hui ne veulent pas travailler sur les hôpitaux publics, pourquoi? Parce que vraiment ils sont maltraités. Et aujourd'hui, la plupart veulent aller chez les privés, là où quand même ils sont bien traités. Et au Kasa Central, il y a un système tel que quand vous arrivez dans un hôpital public, vous n'avez pas de moyens, vous êtes abandonné dans les lits, on ne vous soigne pas, par quoi vous pouvez même aller jusqu'à mourir alors que ça ne devrait pas être le cas s'il y avait
ça dit que vous estimez, Benjamin, qu'il faut que le gouvernement prenne la question à bras les corps, comme on dit. D'abord, il y a ces contrôles que vous avez aussi demandé, qu'on sache qu'est-ce qui se passe, qu'on ait la situation réelle, mais qu'on permette quand même à ces hôpitaux publics de pouvoir fonctionner comme il faut en prenant en charge les infirmiers. 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre interview.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas bien travaillé.
Le intouchable dans ce pays n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Nous revenons à vous, monsieur Kibangula. Vous avez Joseph Kibangula, syndicaliste. Vous avez suivi hein, les compatriotes qui se sont exprimés. Quelle est votre réaction?
Merci, Pierrot. Merci également à Maître Alidor, à Marie-Paul, à Kalo Kalonji et à Benjamin qui ont intervenu. Et je crois que j'ai bien suivi leurs interventions. Vous savez, la profession infirmière n'est pas une profession facile, comme on peut le croire. C'est un travail difficile que nous sommes en train de mener sur le terrain. Parce que nous avons entre nos mains la vie de nos concitoyens, de nos compatriotes. Malheureusement, nous sommes devant des responsables, dirigeants, qui ne tiennent pas compte de tous les aspects qui étaient évoqués par nos compatriotes ici. La Constitution a tout défini, comme a dit quelqu'un dans son intervention. Malheureusement, les systèmes sanitaires, il faut le reconnaître, dans ces pays, il est gangréné, quelqu'un l'a dit, très gangréné. Et c'est un système qui est vraiment bloqué, qui n'est pas ouvert à d'autres corps de métiers. Qu'est-ce que je vais entendre par là? Aujourd'hui, vous prenez de l'hôpital qui est au niveau local, ou les services de base, jusqu'au sommet. Le système est dirigé par un corps médical. Et là, je ne suis pas jaloux, qu'on ne dise pas que non, je suis jaloux contre le corps professionnel des médecins. Non. Je vous dis tout simplement pour vous montrer comment les systèmes fonctionnent par rapport à la rémunération des gens qui sont dans les provinces. À Kinshasa, on est encore bien. Mais la prime des risques qui arrive en province, posez-vous la question, qui est le gestionnaire au niveau de la province? Qui est gestionnaire au niveau du territoire? C'est le médecin, qu'on appelle médecin chef de zone, médecin chef de santé, ainsi de suite. Et ce qui est grave, chers compatriotes, lorsque cette maudite prime arrive en province, eh bien, c'est lui qui est officiellement engagé et qui a le droit de toucher à cette prime, il ne la touche pas, tout simplement parce qu'il y a des magouilles. Et les intervenants de tout à l'heure ont dénoncé comment cette prime est détournée par les membres des familles et de ceux qui sont à la tête des services là-bas. C'est ça notre problème. Nous avons les rapports qui sont venus de Fizi. Je ne dis pas des choses au hasard. À Fizi, par exemple, tous ceux qui travaillent à l'hôpital, je m'excuse, au lieu que l'argent destiné à payer les gens qui sont effectivement en service, mais cet argent paye le membre des familles qui sont localement recrutés, qui n'ont ni numéro matricule et qui ne sont même pas connus par l'État congolais. Alors, les chefs de division de santé s'arrangent pour recruter les siens qui ne sont même pas connus au niveau du secrétariat général, parce que c'est notre administration centrale. Et voilà comment les choses se passent. Et quelqu'un a dit qu'il faut contrôler les effectifs. Nous avons toujours fait ce travail. Malheureusement, l'État qui doit mettre les choses au clair, il n'applique pas les résultats de nos contrôles, des effectifs. Vous contrôlez aujourd'hui, vous ramenez des effectifs réels à la table du gouvernement, mais c'est 2-3 semaines après, les mêmes personnes reviennent sur les listes que nous avions déjà nettoyées. C'est ce cycle-là de chercher à nuire aux hommes et femmes qui travaillent réellement qui fait que le système ne puisse pas très bien marcher. Alors, vous avez... Les compatriotes qui ont intervenu ont parlé du budget alloué à la santé. Messieurs les journalistes et chers compatriotes, si vous ne le savez pas, les budgets au ministère de la Santé ne dépassent pas $5, les budgets nationaux. Comment 5%. Voulez-vous que les hôpitaux doivent être maintenus dans les normes, dans les standards internationaux? C'est impossible. Et on donne la liberté à chaque institution, à chaque établissement de santé, de se gérer, de s'autofinancer avec les recettes qu'il reçoit. Malheureusement, la gestion aussi au niveau des hôpitaux n'est pas une gestion orthodoxe. C'est une gestion de magouilles. Donc c'est de l'argent qui sert à ceux-là qui gèrent. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà commencé à interpeller la conscience de l'IGF, parce que nous voyons que l'IGF s'intéresse à certaines choses, enfin aux politiciens, mais il faut que l'IGF aille jusqu'au niveau des services publics de l'État
pour voir ce qui se passe là-bas. Mm-hmm. Je crois qu'il aura beaucoup de victimes parce que la gestion des hôpitaux n'est pas claire. Nos revendications, monsieur le journaliste et chers compatriotes, ne se limitent pas au niveau des salaires ou des primes. Nous revendiquons également les conditions de travail qui ne sont pas meilleures. Entrez dans nos hôpitaux publics, allez regarder les lits d'hôpitaux, les matériels de soins, les équipements. Je crois que vous allez trouver dans certains hôpitaux les équipements qui datent de 1960, lorsque nous accessions, notre pays accédait à l'indépendance. Mm-hmm. Ce n'est pas possible. On prétend équiper les hôpitaux. Nous ne voyons pas où sont ces équipements-là. Si ça arrive, il y a les détourneurs. J'insiste encore, monsieur le journaliste, aidez-nous, parce que l'IGF ne doit pas se limiter seulement à faire les enquêtes au niveau des politiques, mais il y a les services publics de l'État qui ne fonctionnent pas normalement, mm-hmm. à l'occurrence les établissements de santé. Mm-hmm. Donc, nous
alors,
avons des grandes
Tibangula.
Revendications,
voilà.
Nous avons la mm-hmm. revendication qui concerne les conditions de travail, parce que nous n'avons pas l'équipement nécessaire pour travailler, pour rendre les soins de qualité exigés par la population, qui contribue à 80%. Retenez aussi ça, c'est la population qui contribue elle-même aux soins de santé. Et nous avons aussi des revendications pour notre vie, parce que nous n'allons pas nous exposer, monsieur le journaliste. Vous savez que dans notre pays, c'est un pays d'épidémie. Il y a Ebola. Aujourd'hui, nous sommes dans la période de COVID-19. Vous savez vous-même comment cette COVID a été gérée depuis son début jusqu'à aujourd'hui. Il y a ceux qui travaillent dans les services où nous accueillons les malades qui sont atteints de ce virus-là, mais ces personnes-là ne sont pas payées jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez vous-même comment ils sont en train de traverser le riz en revendiquant.
C'est important. Oui, c'est important ce que vous venez de dire. On va revenir à vous. Le temps d'écouter encore d'autres compatriotes qui sont déjà sur notre standard. Mais il y a cette question que j'allais vous poser parce que vous avez évoqué le fait que les hôpitaux publics, la gestion est entre le maître et le médecin. Mais il y a aussi ces personnes administratives, ces administrateurs gestionnaires. Quel est le rôle qu'ils jouent s'il faudrait que tout soit concentré entre le maître et le médecin? Est-ce que c'est pas aussi un problème de l'organisation du système de santé lui-même en ce qui concerne les différentes responsabilités?
Oui, c'est ce que nous avons toujours demandé, mais on ne nous écoute pas. Nous disons comme ça, l'OMS d'abord, parce que même parler de médecins, ce n'est pas que je ne les aime pas, ou je voudrais me moquer d'eux, non, pas du tout. Nous faisons un corps, nous faisons une équipe. Ça, c'est une définition du système sanitaire. Mmh. Donc, c'est une équipe qui est composée de tout le monde, jusqu'au niveau de celui qui balaye. Vous avez vu aujourd'hui avec cette grève, les gens qui travaillent à la morgue, ce ne sont pas seulement des infirmiers, ce ne sont pas des médecins. Mais quand les morgues ont été fermées, vous voyez des dégâts mm-hmm. qui arrivent. Donc, nous sommes dans un système qui fait que chacun a son rôle. Comme on dit, à chacun son métier, à chacun son domaine, à chacun ses connaissances, ce qu'il connaît. Mais malheureusement, la discrimination ne date pas d'aujourd'hui. On croit que le système de santé, pour bien fonctionner au Congo, dans notre pays, il faut nécessairement placer les médecins à des différents postes de responsabilité. Ce n'est pas ça. Si c'est comme ça, en tout cas, nous ferons des millénaires et des millénaires.
Et ça ne va pas marcher.
Le système
okay.
de santé ne sera jamais, jamais organisé ici dans ce pays.
Voilà, on va écouter Franck. On va écouter Franck qui nous appelle de Vienne. Il y a aussi hein, d'autres auditeurs, mais je rappelle encore à ceux qui n'ont pas la possibilité de passer sur les antennes qu'ils peuvent rejoindre les débats sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Franck, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour notre ami Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour aux amis avec qui nous allons nous échanger et à tout le monde.
On vous écoute, Franck.
Oui, merci beaucoup. J'étais en train de lire là, les commentaires de nos amis sur votre page Facebook. Et par rapport à ce que je vis là, je vais commencer par rappeler deux faits parallèles. Après, je vais citer par des suggestions. Mm-hmm. Je crois, moi, personnellement, que si nos amis et camarades qui prestent aujourd'hui comme médecins sont utiles à la nation et partout dans le monde, suite à leur parcours formatif de plus ou moins 5 à 7 ans dans les universités, nous ne devrions pas non plus admettre que nos sœurs et frères qui sont aussi passés dans des universités pour les mêmes durées ou dans des études supérieures qui sont infirmiers devraient être moins que ça. Je demanderais à ce que mes amis médecins ne m'en veulent pas, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont médecins et je veux m'expliciter d'autre manière, parce que je trouve que la santé des hommes dans chaque pays n'est rien sans ce suivi de la part de médecins, et pour autant nous devons aussi reconnaître à la juste valeur la prestation des infirmiers, car parmi ces infirmiers il y a aussi des hautement qualifiés qui ont aussi fait par exemple 7 à 8 ans dans des universités, mais qui n'ont pas seulement fait la médecine comme spécificité, mais qui ont fait d'autres domaines dans le secteur médical, mais qui travaillent aussi efficacement dans des hôpitaux, et parfois sans ces gens-là, parfois on ne peut pas avancer. Et par rapport à ce qui se passe dans notre pays, mon ami Pierrot, je crois que ce que j'allais dire, l'invité l'a déjà ramassé. Nous devons dénoncer d'abord l'existence des injustices manifestes au niveau du social. Donc il y a des injustices sociales au niveau des salaires, au niveau des mécanisations et aussi au niveau des frais de fonctionnement. Parce que personnellement, je ne peux pas comprendre. Jusque-là, je ne trouve pas de réponse. Je ne trouve pas d'abord d'explication que nous ayons un budget voté au Parlement. Et par rapport à ce budget, il y a une catégorie de compatriotes qui touche par exemple 15 000 dollars le mois avec des gammes d'avantages, frais d'émission, soins de santé à l'étranger, voyage des enfants, et dans le même pays, connaît des gens qui travaillent du 1er au 30 à qui on n'arrive même pas à donner 100 dollars. Jusque-là, je ne trouve pas quelle est vraiment l'explication qu'on peut donner et qui tiendrait. Et personnellement, je ne peux pas comprendre qu'il y ait des gens qui travaillent du 1er au 30 mais que l'État ne sait pas reconnaître, l'État ne sait pas le payer, l'État ne sait pas le prendre en charge, alors que les compatriotes, un papa, une maman, une tante, un oncle, il quitte sa maison le matin, il va au lieu du travail, mais on lui donne rien à la fin du mois. Mon ami Pierrot, quand les gens disent que on doit tenir compte du corona, mais ça c'est un fait qui arrive maintenant. Mais ça fait combien d'années, c'est depuis combien de temps que nos parents qui sont infirmiers, que nos mamans qui sont infirmières, que nos amis qui prestent dans ce domaine-là ne présentent-ils pas des cahiers de charges? Ça ne commence pas seulement maintenant avec l'existence de Corona. Je crois que le problème des infirmiers, ce n'est pas un problème à part. Il y a les infirmiers, il y a les enseignants, il y a nos parents de la fonction publique, il y a les soldats, il y a les policiers. Et le salaire dans notre pays, c'est encore un problème. Et quand on suivait il y a quelques jours un ministre qui nous disait que par rapport à certaines réalités, le gouvernement ne devait pas se présenter en parapauvre. Mais c'est maintenant que le gouvernement doit s'assumer en prenant en charge tous ceux qui travaillent et en allouant de bons salaires à tout le monde. Et comme ça, ça peut aller. Et comment on peut avoir un pays qui tend au développement, qui néglige le secteur de la santé? Comment on peut vraiment penser au développement et négliger ceux qui doivent se poumonner pour travailler? Donc pour autant qu'on doit reconnaître la prestation des médecins, il faut les saluer, ils ne sont pas de n'importe qui. Pour autant aussi qu'on doit reconnaître que parmi les infirmiers, il y en a qui ont aussi fait des études, qui ont 5 ou 8 ans dans des universités pour faire des spécialisations ici et là et qui travaillent à côté de ces médecins. Donc dans le domaine médical, il y a une certaine transversalité de compétences et une certaine complémentarité dans la manière de travailler. Mais si on doit seulement prendre une catégorie à qui on donne des avantages et l'autre catégorie, on la chose ici, non, là, ça ne peut pas aller. Et je trouve que cette guerre, cette grève, pardon, est légitime. On doit reconnaître les réclamations et trouver des solutions avant qu'il ne soit tard.
Merci beaucoup, Franck. Vous avez vraiment balayé l'ensemble des problèmes, mais tout se résume dans ce que vous avez dit, les injustices sociales, que c'est pas normal que les uns soient mieux payés, qu'ils aient autant d'avantages et que les autres se retrouvent à la traîne alors que nous avons le même budget. Merci beaucoup, Franck. Maître Edmond, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, maître.
Merci beaucoup, monsieur le juriste, pour m'avoir associé à ce débat. Le problème qui concerne la grève des infirmiers, moi, je pense que c'est le gouvernement congolais lui-même qui veut que certains agents de l'État aillent bonnement en grève. Parce qu'il est, admissible, sauf que vous faites un petit tour dans les hôpitaux publics, même dans les hôpitaux privés, vous allez constater que les prestataires médicaux, donc ceux qui travaillent, vous trouvez que plus de 95%, ce sont des personnels soignants, des infirmiers et des techniciens des labos qui travaillent et qui soignent les personnes dans les hôpitaux. Bien sûr que les médecins sont là, ils traitent, ils soignent, mais en fait, les médecins ne peuvent pas soigner, ne peuvent pas administrer des soins sans la présence des infirmiers. Et lorsque ces infirmiers prennent, il est inadmissible de pouvoir minimiser leurs primes, parce qu'ils sont en train de réclamer les primes. Les salaires de l'État, ce sont les salaires qui sont fixés par rapport aux gardes. Et là, il n'y a pas un problème. Les primes, les risques, les biscuits, les seringues, les sangs et les autres, tous ces suivis que nos mamans, nos papas, nos frères et sœurs touchent là, pour le gouvernement, c'est du bénévole. Moi, je pense que on doit, même si, comme celui qui m'a présenté vient de le dire, même si on n'égale pas le salaire des médecins avec celui des infirmiers, mais quand même, il faut une vision approximative. Si on paye un médecin une prime de 1000 dollars, on doit quand même payer à un infirmier une prime de 700 dollars, selon les grades et les fonctions. Moi, je pense que le gouvernement doit éviter cet aspect des choses, parce que lorsqu'on permet aux infirmiers d'aller en grève pendant cette période où il y a la troisième vague de Covid, ça coïncide très mal avec la troisième vague. Je pense que le gouvernement, apparemment, qui lutte contre le Covid, permet que le Covid soit propagé dans les pays. Moi, je vous informe que moi, avant d'effectuer un petit déplacement, je suis parti faire le test de Covid, mais j'ai trouvé que le labo est fermé. Et allez-y comprendre. Et si je me déplaçais ou s'il y a un agent, une personne qui vient de l'extérieur et qui est atteinte de Covid, et si le technicien de labo n'est pas là, qu'est-ce que le médecin va faire? Donc vous comprenez que le travail des infirmiers, c'est un travail louable, et le gouvernement doit penser à ce que ces gens-là soient également mieux traités avec une très bonne prime qui puisse quand même leur attirer une très bonne vie.
Merci beaucoup, Maître Edmond. C'est une question de conscience, vous avez beaucoup insisté sur ça. C'est une question vraiment que le gouvernement puisse prendre la responsabilité, parce qu'il est anormal que les uns, comme le disait Franck tout à l'heure, que les uns soient mieux payés, mieux traités, et que les autres puissent être à la traîne. Je vois ici, il y a beaucoup de commentaires sur la page Facebook des paroles aux auditeurs, beaucoup de compatriotes qui sont en train de s'exprimer. Et d'ailleurs, la plupart reviennent encore sur la question de la responsabilité du pouvoir public, la responsabilité du gouvernement dans la politique salariale. On estime qu'elle fait défaut. Kalo Kalonji le disait tout à l'heure, mais il a aussi réclamé l'audit. Hein. Je vois beaucoup d'internautes qui reviennent sur la question de l'audit, qui souhaiteraient vraiment que, comme notre invité le disait, que l'IGF s'intéresse aussi au secteur de la santé pour savoir comment les hôpitaux sont gérés, qui sont les personnes qui sont payées. Est-ce que c'est pas des infirmiers qui travaillent dans le secteur privé, mais qui, à la fin du mois, ils vont toucher les salaires parce qu'ils ont les numéros matricules? Voilà, il y a autant de choses, autant de questions, je crois que auxquelles on devra trouver des réponses. Je pense que Monsieur Joseph Kibangula, vous êtes avec nous. Vous venez encore de suivre des compatriotes qui se sont exprimés. Il y a cette question, comme je le disais tout à l'heure, de gens qui travaillent dans le privé, mais qui ont déjà tous presque les numéros matricules et qui sont alignés sur les listings des payes. Alors, et qui tout le temps ont fait toujours des contrôles dans le secteur de la santé. Qu'en est-il exactement, Monsieur Joseph Kibangula?
Oui, merci, monsieur le journaliste. Je ne sais pas si vous me suivez encore très bien, parce que
oui.
Chez moi, vous sortez un peu entrecoupé.
Maintenant, c'est bien. Je crois que je vous suis très bien.
Ok. Alors, je voudrais remercier Franck, Maître Edmond qui ont intervenu. Je crois que, vous voyez, la question des santé publique, ce n'est pas la question uniquement des professionnels de santé. C'est la question de tout le monde, même la population. Elle est concernée dans cette affaire des santé publique. Alors, je crois que c'est Franck qui a évoqué la question des études. Mais au niveau de la profession, de notre profession, de ma profession, pour Franck venait de dire, nous avons déjà des hauts niveaux de formation.
Alors, Monsieur Joseph, pourriez-vous vous déplacer un tout petit peu parce que là, on est en train de vous perdre. Il y a des petits soucis, hein, des connexions. Si vous pouvez, tout en intervenant, mais vous vous déplacez un peu ou soit vous changez de position là où vous êtes.
Oui, je suis en train de chercher la position. C'est comme ça que.
Mais c'est très bien. On vous suit maintenant bien, oui.
Vous me suivez bien?
Très bien, oui.
Alors, ok. Alors, les diplômes, je crois que tout le monde le sait. Les diplômes, c'est un passeport. C'est quelque chose qui identifie la qualité intellectuelle de la personne qui les porte. Mais c'est sur le terrain qu'on doit juger, qu'on doit apprécier la qualité de celui qui porte ce diplôme-là. Donc, à la santé, c'est un travail complémentaire. Le médecin ne peut pas faire un travail sans l'infirmier à côté de lui. L'infirmier, mêmement. Le biologiste, mêmement. Donc, c'est un travail complémentaire. Même les balayeurs, parce que c'est quelqu'un qu'on minimise souvent, on dit qu'il est balayeur, il n'a pas d'importance. Non! Si celui qui balaye n'a pas balayé le bureau d'un médecin, n'a pas balayé le couloir de l'hôpital, eh bien, l'hôpital ne sera pas l'hôpital. Donc, je voudrais tout simplement profiter de cette émission pour interpeller les gouvernements de prendre conscience. Et de prendre conscience pour dire que santé, c'est une priorité, comme l'agriculture, on a toujours dit, comme l'éducation. La santé, c'est une priorité et on doit mettre beaucoup d'accent sur les problèmes de santé en République démocratique du Congo. Pourquoi nous voulons toujours tendre la main à l'extérieur? Parce que quand je vous dis que le budget national ou le budget alloué au système sanitaire ne dépasse pas 5%, le reste là, c'est le complément que nous obtenons de l'étranger, des organisations, ainsi de suite. Et quand ce monsieur ou ces organismes-là viennent avec cet apport-là, cette aide-là, eh bien, ils font ce qu'ils font. Ils ne respectent même pas les normes nationales. Donc, ils sont devenus les grandes puissances de notre système sanitaire. Et nous, les infirmiers, nous sommes en train de constater que les hôpitaux ne marchent pas. Les dispensaires ne marchent pas. Parce que vous savez que nous avons adopté les systèmes de soins de santé primaire. Quand on parle de soins de santé primaire, c'est-à-dire qu'il faut commencer quelque part avant d'arriver à l'hôpital tertiaire.
Regardez, alors monsieur Joseph Kibangula, parce que là il y a un bruit de fond, si peut-être, je sais pas si vous utilisez les écouteurs, c'est peut-être le coup de vent qui frappe votre micro, ça peut être les écouteurs, si vous en avez, peut-être vous pouvez enlever, mais permettez que nous puissions rapidement écouter, je crois, du côté du standard, les deux derniers auditeurs, nous allons revenir à vous, les temps que vous puissiez peut-être débrancher les écouteurs si vous en avez, ou soit carrément essayer de ne pas trop mettre les téléphones près de la bouche pour éviter qu'il y a ce petit bruit qui fait que votre voix disparaît à un certain moment. On revient à vous dans quelques secondes, le temps que vous puissiez régler ça. Mais en attendant, on écoute rapidement Jérémy qui est à Lubumbashi. Jérémy, merci d'être avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour également à notre invité. Je pense que le sujet, il est pertinent parce qu'il coïncide bien évidemment avec la période de variants qui est d'ailleurs virulent, qui décime pas mal de gens. Alors moi je me dis, à cette période où les agents sanitaires trouvent l'opportunité de pouvoir revendiquer bien sûr leurs droits par rapport bien évidemment, n'est-ce pas, aux conditions sociales et aux primes des risques. Moi, je me dis, leurs problèmes, leurs revendications, les revendications sont fondées, mais malheureusement, il faut aussi tenir compte des priorités, parce que vous savez, vous ne pouvez pas revendiquer deux choses à la fois. Moi, je trouve que ce qui importe le plus pour le moment, c'est d'abord les conditions sociales qu'il faut revoir, mais pas aller jusqu'à demander la mécanisation, n'est-ce pas, de nouvelles unités, mais ça, c'est demander trop à l'État, parce que le budget de notre pays, vous le savez, il est très médiocre, et il faut attendre peut-être lorsque l'autorité budgétaire qui est le Parlement votera alors, ce budget-là, à ce moment-là, on doit...
Oui. Alors, Jérémy, parce que là, on est bousculé par le temps. Quand vous demandez qu'on ne puisse pas revendiquer pour la mécanisation, il revient à l'État de pouvoir dire que non, voilà, je commence par vous régler un tel problème. L'année prochaine, je règle la mécanisation. L'année prochaine, je règle. Il revient à l'État de pouvoir répondre. Ça n'empêche pas aux infirmiers de pouvoir placer sur la liste les revendications. C'est à l'État de pouvoir planifier ses réponses à ces revendications. En 10 secondes, rapidement. Alors, là, on a des petits soucis avec Jérémy. Alors, on va terminer carrément avec Pierre qui est à Goma. Voilà, on a des problèmes vraiment avec les lignes téléphoniques. Pierre, rapidement, votre point de vue autour de cette question. Pierre, vous êtes avec nous, bonjour.
Merci beaucoup, Pierrot et Lameshi. Bonjour à tous les invités de la radio, Capi, bonjour à l'invité.
Allez-y rapidement,
oui. Oui, la grève qui a été déclenchée par les infirmiers et personnels administratifs des hôpitaux publics depuis le 8 de ce mois a des conséquences à nous, la population, parce que les patients se trouvant dans des hôpitaux sont exposés à certains risques de mourir, mais aussi ceux-là qui peuvent être attrapés par une maladie exigeant un traitement rapide peuvent risquer dans cette situation. À part ça, nous sommes sans ignorer que notre pays fait face à la troisième vague de coronavirus et les souffrants de cette pandémie méritent une surveillance totale et j'ai comme impression que tous ces patients se trouvent dans des hôpitaux publics. Et moi, je pense que ces infirmiers ont raison de gréver pour montrer au gouvernement qui est toujours chargé d'améliorer leurs conditions sociales et répondre à toutes ces revendications, à l'occurrence de la mécanisation des nouvelles unités et prime des risques de les faire. Pour finir, moi j'appelle notre gouvernement à travers le ministère de la Santé de chercher comment répondre à toutes ces revendications dans un bref délai. C'est car c'est une priorité et je ne comprends pas pourquoi un gouvernement qui voit toutes ces grèves peut penser à acheter des jupes pour les députés avec une somme importante d'argent pendant que les infirmiers militaires enseignants
voilà, merci, sont dans merci de beaucoup Pierre, impliquées. Merci beaucoup Pierre. D'ailleurs, on va revenir sur ces débats sur les jeeps qui fait couler beaucoup d'encre et des salives, comme on a toujours dit. Alors, on revient à vous rapidement, Monsieur Joseph Kibangula, en un mot, parce qu'on doit vraiment chuter pour conclure cet échange. Hein. Je sais qu'il y aura des discussions aujourd'hui entre le gouvernement et les syndicalistes. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour conclure cet échange en un mot? Monsieur Joseph, vous êtes avec nous? Voilà, là on a eu des petits soucis des lignes avec notre invité, Monsieur Joseph Kibangula. Monsieur Joseph, vous êtes avec nous?
Allô?
Voilà, Monsieur Joseph, vous êtes avec nous?
Oui,
je disais que là on est vraiment
en train de discuter. Si vous me suivez.
En une minute, oui, en une minute pour votre conclusion, parce qu'on doit vraiment terminer par là.
Ok, je m'excuse parce que les dernières questions de Monsieur Pierre, je n'ai pas compris, je n'ai pas écouté, j'étais coupé. Alors, je voudrais un peu réagir sur la question de Jérémy, qui a essayé de parler de...
Il a dit que vous demandez beaucoup de choses à la fois, ou soit l'amélioration des conditions et la mécanisation. Rapidement, parce que là, on doit vraiment chuter, oui.
Oui, Monsieur Jérémy, il faut savoir que nous avons cumulé des revendications. Mm-hmm. C'est depuis 2012 que nous avons des cahiers des charges sur la table du gouvernement qui ne sont pas résolus. Alors, c'est ce cumul-là qui fait que vous puissiez parler de plusieurs revendications.
Oui.
Quand le gouvernement nous promet, il ne réalise pas. Nous revenons.
Merci.
Et aujourd'hui, parmi ces revendications-là, nous n'avons trié qu'un seul qui est majeur.
Merci
c'est
beaucoup.
L'alignement, parce qu'il faut retenir qu'il y a 44 000 infirmiers à aligner pour toucher la prime.
Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Merci en tout cas. Alors, on espère qu'il y aura de discussions avec les gouvernements et qu'on aura des solutions. En tout cas, merci. On ne sera pas tout épuisé aujourd'hui. Merci beaucoup. Et merci à Hippolyte Kapanga, merci à Jusuf Mukendi qui ont concouru à la production de cette émission que vous allez retrouver sur www.radiocapi.net. Merci de votre fidélité.